France Culture. Les midis de culture. Marie Sorbier.
Ça chante déjà dans le studio. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans les midis de culture. À 13h, je recevrai Jamel Debbouze, agent de footballeur dans le dernier film de Tristan Seguela, Mercato, qui sort en salle mercredi. Mais dans les midis, c'est la critique qui lance les festivités. Au programme aujourd'hui du spectacle vivant avec une pièce de théâtre destinée à la jeunesse, une adaptation de Robin des Bois, version 2025 par Maya Sandoz. Puis nous irons voir du côté du cirque avec le dernier spectacle du Circus Baobab qui met à l'honneur les femmes guinéennes. Alors de la forêt interdite aux rues de Conakry, prenez place, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Et avec nous, aujourd'hui, autour de la piste, Lucille Comeau, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute tous les matins sur France Culture pour votre regard culturel. Et Zoé Sfès, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute aussi tous les samedis pour la série musicale sur France Culture. Des critiques maison, donc aujourd'hui, bienvenue à toutes les deux. On commence avec du théâtre. Alors Robin et Christabel Desbois vivent avec leurs parents, ils ne roulent pas sur l'or, mais comme dirait leur père, ça va. Oui mais voilà, la mère perd son travail, doit voler de quoi manger et se retrouve en prison. Le père, employé par la mairie aux espaces verts, se fait mal au dos et meurt aux urgences faute de médecin. Nos deux laissés pour compte refusent leur foyer d'accueil et vont donc se réfugier dans la forêt interdite où ils fondent une communauté avec d'autres parias. Alors ça semble tragique un résumé comme ça, mais c'est une fable qui se veut aussi drôle qu'engagée, hein, on reviendra peut-être sur ce terme. Et c'est un spectacle annoncé à partir de 7 ans. En quelques mots, Lucille Comeau, est-ce que Maya Sandoz réussit le pari de l'adaptation ?
Alors, déjà, je ne suis pas sûre que ce soit une adaptation, mais bon, ça, on y reviendra en plus que quelques mots. Et par ailleurs, non, je ne pense pas qu'elle réussit. Je pense qu'il y a des problèmes de rythme qui sont articulés précisément à la question de l'engagement du propos.
Zoé, pareil, même exercice.
Je suis obligée de valider, quoique, et c'est un peu le paradoxe du spectacle, il a un rythme intrinsèque absolument génial, parce que les comédiens et la capacité à faire théâtre est presque inversement proportionnelle à ce qu'on comprend ou pas de ce qui veut être dit. Donc, il y a vraiment je ne suis pas sûre de ce que j'ai vu. C'était sûr que c'était du théâtre qui prenait pas les enfants pour des idiots, mais est-ce qu'on a vraiment vu ou une adaptation ou quelque chose qui dit quelque chose vraiment? Je suis pas sûre.
Dans cette forêt sans chef, vous avez mené une vie, comment dirais-je, en marge de la société, en quelque sorte. Pourriez-vous décrire à la cour quel était votre mode de vie dans cette forêt?
Habiter la forêt demande peu de frais. Pour vivre, il vous suffit de laisser s'engouffrer de l'air dans vos poumons et puis de l'expulser.
Monsieur le juge, je proteste. L'accusé fait de la poésie.
Maître Marguerite, je vous prie de bien vouloir respecter un petit peu la cour et de demander à votre cliente de cesser immédiatement ces alexandrins.
Mais bien sûr, Christabel, veuillez répondre à la question sans poésie, s'il vous plaît.
On construit des cabanes. Il y a une école et une infirmerie. On passe nos journées à ramasser du bois pour le feu, à cueillir des champignons, à chasser. Et le soir, on fait le point, on prend des décisions tous ensemble. Parfois, on vote.
Je pense que vous n'avez pas bien compris la question. Je vais reformuler. Ce que la cour aimerait savoir, Mademoiselle Desbois, c'est comment fait-on pour vivre dans la forêt interdite, hein? Comment faites-vous pour acheter des trucs?
On n'achète pas de trucs.
Ah. Il n'achète pas de trucs. Monsieur le juge, je suis atterré par cette révélation. Tout le monde sait que les enfants adorent acheter des trucs.
Ça sert à rien d'acheter des trucs dans la forêt. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Des feuilles mortes, des bouts de bois, des glands? Vous savez, la forêt, c'est pas comme ici. La forêt a ses propres lois.
Oui, et c'est bien pour ça qu'elle est interdite.
Alors, Lucille, je crois qu'on a entendu beaucoup de choses dans cet extrait, mais formellement, comment se présente la pièce? Qu'est-ce qu'on voit sur scène?
Alors, quand on arrive dans la salle, le plateau est ouvert et on voit principalement un mur végétal qui est engrillagé en fond de scène avec un panneau devant qui ressemble un peu à une affiche de manif qui aurait été oubliée là, donc en carton et écrit dessus à l'encre noire « Histoire triste ». Voilà, donc ça annonce un peu la couleur. Il y a aussi des effets de lumière assez un peu électro, donc il y a un effet dégagé du naturalisme. Et puis arrivent sur scène quatre personnages qui vont beaucoup nous parler face scène pour nous raconter ce qui se passe au lieu de jouer ce qui se passe, ce qui est en partie pris, hein, et qui joue alternativement plusieurs personnages. Et donc, au début, cette famille, la famille des Bois, dont Robin est le petit garçon, qui d'ailleurs disparaît complètement de l'action, donc ça on en reparlera, c'est assez étrange parce que finalement Robin n'est pas du tout au cœur de l'histoire. Celle qui est au cœur de l'histoire, c'est celle qu'on entendait dans l'extrait, c'est Christabel, sa sœur, puisque évidemment parmi tous les éléments du nouveau dogme qui vont être exposés sur la scène, il y a l'inversion des genres. Donc ce sont les filles qui sont les plus badass et ce sont les filles qui gèrent à la maison. Donc c'est une pièce qui est partagée en deux. Il y a cette partie-là devant ce mur grillagé un peu végétal qui est la mise en place de la tragédie. Donc là, il y a un côté vraiment descente aux enfers, c'est ce que vous avez décrit tout à l'heure, hein. Le père meurt, la mère se retrouve en prison, les enfants sont littéralement abandonnés, il y a une question d'être passer à l'aide sociale, puis finalement ils s'enfuient. Ils vont dans la forêt interdite, qui est vraiment un terme de Harry Potter par ailleurs. Donc là, il y a un petit jeu pour les enfants, je suis pas sûre qu'ils l'aient compris, mais bon, ça c'est autre chose. Et donc ils se retrouvent dans la forêt interdite, et là il y a une ellipse assez franche, ce qui est plutôt pas inintéressant pour un spectacle jeunesse. Là, il y a une vraie confiance dans le récit. On passe à des années plus tard. Christabel est en prison, c'est son procès. Elle a été chopée dans la forêt interdite alors qu'elle vivait dans une communauté qui est en fait une espèce de ZAD, hein, de gamins. Et elle a été arrêtée parce qu'elle a, comme Robin des Bois, volé aux riches pour potentiellement redistribuer aux pauvres.
Donc l'adaptation, s'il y en a une, elle est là. Elle est sur ce twist principal de « on vole aux riches, on donne aux pauvres ».
Oui et non, parce que c'est pas vraiment un twist. Et de fait, c'est pas ce qui intéresse principalement la pièce, qui est une sorte de portrait, mais vraiment très lacunaire, de notre société par l'outrance. Donc c'est vraiment une fable politique. Donc autant elle est lacunaire à plein d'endroits parce qu'elle est pas très cohérente et pas très rythmée, autant elle est vraiment pas lacunaire sur son principe, c'est-à-dire qu'elle est là pour être assénée. Sauf que les enfants ne sont pas de gauche, c'est bien connu, les enfants sont de droite. Donc ils leur assénaient un truc de gauche avec des réflexes vraiment de simplification de la gauche actuelle, disons de la gauche radicale dans ce qu'elle peut avoir de plus cliché aujourd'hui, ça ne sert strictement à rien. D'ailleurs, les enfants rigolent quand c'est de droite.
Donc, en fait, les enfants sont pour le méchant, si je vous suis bien.
Ah bah, le personnage de méchant est le personnage le plus intéressant de la pièce.
Alors, je suis pas d'accord. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la deuxième partie, et là vraiment, je me suis posé cette question, toute la deuxième partie du spectacle, en fait, après la première partie qui est une tragédie, la deuxième partie, c'est on revient sur ce qui s'est passé une fois qu'ils ont été dans la forêt interdite, et c'est là qu'il y a quelque chose.
Donc une forme
fou.
Procès, hein.
Par un procès. Or, déjà, c'est un truc quand même assez fondamental. Je ne sais pas si tout le monde à 8 ans sait ce que c'est qu'un procès. Déjà, la forme du procès, qui pour le coup est extrêmement théâtrale et plutôt vraiment assez jouissive. Vraiment, on est dans un rythme pour le coup assez chouette et qui remet en scène par flashback, dans des transitions, de personnages, de lumière, etc. Ce qui se serait passé dans cette vie qu'ont mené les enfants, où encore une fois Robin a disparu, ses enfants, cette communauté de la forêt interdite. Donc on est sur un récit indirect, en fait. On doit s'imaginer ce qui s'est passé dans cette forêt. Et l'enjeu, c'est pas tellement de donner à voir, c'est là où c'est intéressant, ce qui pourrait se passer dans une vie alternative. C'est là où on va en revenir quand même, je pense, au principal problème de spectacle. Si on évacue la question de Robin des Bois, parce qu'elle, pour moi, elle est vraiment pas centrale, c'est pas la question. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on fait ce genre de spectacle dit engagé. Moi, j'aimerais quand même revenir sur les qualités de cette troupe, parce qu'il y en a quand même, c'est ça qui est particulier. C'est que, en fait, un spectacle de gauche, pourquoi pas, Lucille va dire que les enfants sont de droite, why not? On peut y aller un peu franco en disant, quand on est dogmatique comme ça, on n'est pas sûr que ça marche. Mais surtout, ce qu'on sait, c'est que les enfants, et même nous, enfin moi, spectateur adulte, qui ai plus ri aux blagues, d'ailleurs, que les enfants qui étaient présents dans la salle, avec d'autres parents, parce que pour le coup, c'est bien écrit dans cette catégorie, il y a un rythme assez soutenu, il y a des vrais moments de petite folie. Le vrai problème, c'est qu'en fait, je pense que pour raconter tout ce que ce spectacle entend raconter, il faudrait montrer ce qui se passe, en fait, quand on se libère des problèmes de la société. Là, on est sur une liste de ce qui va pas dans notre société et qui fait référence à des épisodes plus ou moins connus que nous, adultes, connaissons. La question de l'hôpital public, il y a plus ou moins des relents dans l'affaire, parce qu'évidemment, il y a le méchant qui est le duc de
juste deux mots peut-être sur l'affaire. L'affaire, c'est que ces enfants de la forêt interdite vont aller vandaliser le nouveau centre aquatique de la ville.
Alors, le chef de la ville, qui est le maire et qui, en plus, dans cette...
Et le procureur.
Et le procureur, qui est tout le monde à la fois, qui est tous les méchants à la fois. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de constitution. Bon, voilà, a décidé de prendre l'argent et les taxes pour non pas réparer l'école ou l'hôpital, mais construire un aquasplash, c'est-à-dire un parc de, évidemment, un parc nautique. Évidemment, les enfants adorent les parcs nautiques, donc c'est compliqué. Et ce qui s'est passé, c'est que la bande de la forêt interdite est allée là-bas pour faire s'écrouler cet endroit, puisque j'oublie de dire que c'est parce qu'il y a ce parc qu'ils ont tous été expropriés. Mais encore une fois, ça, c'est plein de détails qui sont assénés hyper vite. Donc déjà, les enfants, je suis pas sûre qu'ils comprennent exactement tout ce qui s'est passé, donc pourquoi on en veut à la Square Splash. Et en voulant libérer les pandas, ce qui n'était pas nécessairement une bonne idée, d'ailleurs, ils le disent, et en voulant casser l'aquasplash, il se trouve que la bande va tomber sur un magot, sur un trésor. Donc, c'est même pas du Robin des Bois, au sens où, délibérément, ils ne volaient pas les riches pour les redonner aux pauvres.
Mais c'est même pas le truc marrant de Robin des Bois qui plaît aux enfants. Que
voilà,
c'est
le magot le est dans le faux plafond.
Et dans le faux plafond.
Il se trouve être là.
Ouais, il se trouve être là. Donc, il y a quand même un problème, en fait, simplement, je trouve, de donner à voir. Si on veut parler à des enfants, il faut qu'on parle à leur imaginaire. Or là, on parle bien à leur imaginaire dans la capacité à faire théâtre, parce que quand même, on peut le dire, transition, ils sont quatre sur scène, deux garçons, deux filles, ils occupent plus ou moins six ou sept rôles, les transitions sont hyper rapides, il y a des jeux quand même assez sympathiques, il y a des vraies petites capacités à créer une scène, un clair-obscur en deux secondes, mais on ne leur donne pas à voir à ces enfants ce qui pourrait être désirable dans une société, à la place de leur montrer toute une liste de problèmes dont la plupart... ils n'en ont pas conscience, ils ne le comprennent pas et ça va trop vite pour eux.
Non mais alors, à qui s'adresse ce spectacle ? Pour qui elle l'a écrit, Maya Sandoz ?
Mais c'est le problème de beaucoup de spectacles jeunesse. Hein. Pour le coup, je ne vais pas jeter la pierre à ce spectacle-là en particulier parce que c'est très très difficile de faire un spectacle jeunesse. La question c'est, est-ce qu'on écrit ? Parce que là, il s'agit d'écrire. Est-ce qu'on écrit pour les enfants ? Est-ce qu'on écrit pour les enfants et pour les parents, ce qui est l'idéal, et quand ça fonctionne, c'est souvent assez merveilleux. Moi, j'ai le souvenir, je cite souvent les spectacles de David Lescaut qui ont été joués à nouveau cette année, qui sont des spectacles très simples et qui s'adressent vraiment, mais parce que c'est très bien écrit, aux deux publics en même temps, sans faire jouer l'humour des enfants contre l'humour des parents. Ce qui, à mon avis, est ce qui se passe dans la pièce de Maya Sandoz. Parce qu'elle fait jouer d'une certaine manière ce que les enfants comprennent contre ce que les parents comprennent, et inversement. Et c'est ça qui ne fonctionne pas. C'est un spectacle qui dit beaucoup « Regardez », qui parle aux parents pour dire « Regardez comment je m'adresse bien à vos enfants ». Et en fait, ça ne fonctionne pas. Et il y a un effet retard sur le comique, qui est en effet le moteur principal, y compris rythmique de la pièce, qui ne fonctionne pas. Enfin, je vais citer un exemple qui est, je trouve, hyper révélateur. Donc, il y a ce passage où les enfants se montrent, les gamins qui sont une espèce de ZAD, là, les zadistes en herbe, ils ont le magot, ils ont tout récupéré et ils se posent la question entre eux. Donc, ils font une assemblée générale pour se demander qu'est-ce qu'on va faire de tous ces sous. Il y en a un qui lève le doigt et qui dit, et donc ils sont face scène, donc d'une certaine manière ils s'adressent au public. Et le public, en l'occurrence, moi quand j'y suis allée, c'était quasiment que des scolaires, donc beaucoup beaucoup d'enfants de 7 ou 8 ans. Et donc là ils disent, est-ce qu'on va à Dubaï dans une maison avec des jacuzzis ? Et là tous les gamins hurlent, oui ! Bah évidemment, enfin, tous les gamins veulent aller à Dubaï dans un jacuzzi. Et là il y en a un qui dit, non mais on pourrait pas plutôt le donner à l'hôpital pour reconstruire l'hôpital ? Et là les gamins, bah non, enfin,
non, ils préfèrent aller à Dubaï. À l'hôpital,
bah, c'est pas. Donc, et là il y a l'effet de décalage, il est immense. Là, c'est un raté quand même, vraiment, de l'écriture jeunesse. Ça ne fonctionne pas.
Est-ce que vous avez eu cette même impression de décalage du rire des enfants ? Est-ce que
oui,
les enfants
rient ? Oui, à ceci près que moi, j'y suis allée un dimanche avec des enfants qui, d'après moi, sont plus préparés à ce type de choses, puisqu'il y en a un qui a suggéré, c'est un moment un peu ouvert.
Il y a des interactions avec le public.
Il y a des interactions avec le public. Oui. Effectivement, à ce moment-là, il y a vraiment l'idée de faire un peu une assemblée participative, comme on peut en avoir dans la ZAD. Et nous, il se trouve qu'il y a un enfant qui a dit, est-ce qu'on pourrait pas faire tomber l'État ? Donc après, il y a eu tout un blague sur est-ce que l'État, c'est l'État ou est-ce que c'est d'État ? Donc il y a vraiment eu un truc assez marrant sur lequel ils ont capitalisé. Ce qui est certain dans tout ça, encore une fois, c'est que je pense que ce que vient de décrire Lucille comme scène est assez emblématique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire ça, c'est un problème qu'on a dans la société et d'ailleurs adhérer avec nous. Déjà, encore faudrait-il qu'effectivement on les emmène un peu plus loin parce que là, en fait, la seule arme de tous ces enfants, c'est un moment assez poétique d'ailleurs où la mère leur apprend à tirer à l'arc. Voilà, la seule chose qui subsiste, on va dire, du mythe de Robin, c'est ça. C'est le beau geste, la beauté. Je ne suis pas sûre que ça suffise à des enfants de repartir avec l'idée qu'avoir le beau geste, c'est ça qui va te sauver dans la vie. Et donc, évidemment, face à Dubaï, il ne peut pas y avoir l'hôpital qui va mal. Il doit y avoir autre chose, donc pourquoi pas ? Mais en fait, là où je suis d'accord avec Lucille, c'est que ce problème, évidemment, passe tout le temps, et c'est encore pire quand on prend vraiment les enfants pour des idiots. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que ça va presque trop vite pour eux. Mais ce que je peux dire, c'est que Le problème, la plupart du temps, des quelques spectacles que j'ai vus, et les seuls qui marchent, c'est quand on propose autre chose. C'est-à-dire qu'en réalité, on arrive à embarquer dans une possibilité d'imaginaire des enfants dans une proposition qui soit positive, qui vous fasse plus rêver à la rigueur que Dubaï. Voilà.
Allez donc vous faire votre avis, l'hôpital public ou Dubaï. C'est Robin avec des points entre chaque lettre de Maya Sandoz et c'est au théâtre Paris-Villette jusqu'au 2 mars, puis les 3 et 4 avril au Fil de l'eau à Pantin. Puisque nous parlions du Paris Village, je voulais juste vous dire en quelques mots, vous parler d'un autre spectacle qui joue en ce moment toujours au Paris Village, qui est un grand lieu du théâtre pour tous les publics à Paris. Et c'est une toute petite forme pour les tout petits enfants à partir de 3 ans. Ça s'appelle À qui mieux mieux. Et c'est le grand marionnettiste Renaud Herbin qui met en scène cette petite forme. Alors, c'est pas un spectacle de marionnettes à proprement parler, c'est plutôt un théâtre d'objets qui travaille sur la matière, la laine notamment, de toutes les couleurs, et les mots aussi qui deviennent de la matière parce qu'ils peinent à sortir du personnage principal. Et pourtant, ce personnage, il essaie de s'exprimer tout le temps et d'exprimer l'émerveillement, mais il n'a pas encore les mots pour le dire, comme ces petits-enfants assis par terre avec leurs couches autour de ce spectacle. Ça dure 40 minutes. Eux, les enfants, ils ne se privent pas de réagir, ça rit beaucoup. Ils ont envie d'aller toucher ces grosses pelotes de laine et ces gros coussins sur scène. Moi, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Et puis, c'est quand même chouette qu'il y ait des metteurs en scène comme ça qui s'attaquent au spectacle pour les tout-petits, parce que c'est des premières relations avec la scènes qui sont vraiment importantes et le leitmotiv du personnage principal, et je finirai là-dessus, il essaie de dire pendant 40 minutes et il y arrive à un moment donné, chaque jour j'ai envie d'être en vie, voilà, et les enfants répètent ça à l'envi et ça c'est assez joli. Et donc c'est au Paris Villette et c'est jusqu'au 2 mars prochain. Allez, suite de notre débat critique avec le nouveau spectacle du Circus Baobab, troupe de cirque itinérante originaire de Guinée, qui mêle dans leur spectacle les modes traditionnels d'expression festif ouest-africain aux nouvelles écritures du cirque contemporain. Yongo Yeli, qui signifie l'exciseuse en dialecte soussou, se veut un hommage à la puissance des femmes et leur rôle fondamental dans le développement économique du pays, sur scène comme agrès principal de petits troncs d'arbres et 9 circassiens qui rivalisent de virtuosité. Zoé, un premier avis en quelques mots.
Moi, c'est tout ce que vous venez de dire, sauf que moi ça me faisait un peu peur avec en plus effectivement ce sujet de l'excision, la rencontre de modes d'expression corporelle ouest-africain avec une mise en scène qui vient directement de la nouvelle tradition du cirque contemporain. Je suis assez emballée, je dois dire, vraiment, je suis assez dithyrambique parce que on a un peu le meilleur des deux et ce qu'il y a de très beau, c'est qu'il y a quand même un savoir-faire, un point de vue de vrai cirque contemporain au niveau de ce qu'on a vu, des Yann Bourgeois, de tout ça. Et il y a quand même pas du tout l'effacement de cette troupe, qui est une troupe assez incroyable, qui est vraiment présente à tous les endroits avec des interprètes de cirque qui sont de vrais interprètes, avec des images qui vont rester pour l'éternité. Donc a priori, quand on sort avec ça, c'est que c'est plutôt un bon spectacle de cirque.
L'éternité. Lucille, est-ce que vous avez été impressionnée?
Ouais, c'est très impressionnant. Et en effet, c'est très juste ce que dit Zoé. C'est à l'équilibre. C'est pour le coup, pour un spectacle de cirque, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est plutôt un spectacle sur le déséquilibre, mais on en reparlera. Mais c'est vraiment à l'équilibre et c'est toujours très juste. C'est un peu l'inverse de ce qu'on vient de dire. C'est pas asséné. Il y a rien qui est asséné. C'est-à-dire que tous les thèmes que vous venez d'énoncer, moi, je les avais pas en tête parce qu'en général, je vais au spectacle sans rien lire et donc je ne savais pas du tout de quoi il allait s'agir. Et ce n'est pas évident. C'est pas du tout des choses. C'est pas un documentaire, quoi. Et c'est très bien.
Alors peut-être pour commencer, Zoé, est-ce que vous pourriez nous parler de la place de la musique? Je crois que ça chante, ça rit, le vocal a quand même une place très importante. Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on écoute?
Alors on écoute beaucoup de choses. Donc évidemment tous ces interprètes, beaucoup de filles. Donc il y a 3 garçons et 6 filles sur scène, 3 hommes et 6 femmes sur scène. Tout le monde dans cette pièce va chanter quasiment tout le temps, donc la plupart du temps le rythme est là. Il y a une bande-son enregistrée, on commence le spectacle sur un plan fixe avec des bruits de la rue, on peut s'imaginer de Conakry. Donc vraiment une espèce de présence du travail sonore qui nous projette dans un environnement, du chant, de la danse, du rap. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, donc cette problématique dite de l'excision ou tout simplement de la place de la femme, du rapport entre les gens, on va le dire comme ça, est présente par un dispositif où on a par moment, mais justement pas trop, ça qui est génial, des sons sur le format documentaire, un peu un petit bout de podcast, de gens qui s'expriment en français, de gens qui s'expriment en soussou, mais pas nécessairement traduit, et, ça c'est, j'ai adoré ça, les interprètes se parlent ou s'interjectent sur scène dans leur langue. C'est pas grave si on comprend pas, on est là, il y a un rapport social, il y a un rapport qui existe entre eux. Donc, du point de vue du son, il y a vraiment quelque chose qui est porté par ça, et je tiens à dire qu'en fait, il y a très très peu de musique extra-diégétique, en fait, puisque la plupart du temps, c'est le rap et le chant, et qui est scandé, chanté en même temps qu'on porte, qu'on se tape dessus, qu'on se donne des objets, qui va créer le rythme du spectacle, rythme qui est soutenu et qui a des vraies descentes. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est une réussite absolument totale pour moi.
Lucille, concernant les agrès, j'évoquais ces troncs de bois, mais c'est pas le seul. Au niveau acrobatique, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, c'est à la fois très simple et très compliqué. Moi, qui suis pas une grande spécialiste de cirque, je pense qu'il y avait des choses que j'avais jamais vues. Donc, les agrès, donc, en effet, ce sont des grumes, donc, ce sont des troncs d'arbres très fins, qui sont extrêmement souples, qui servent à la fois de mâts, donc, les mâts chinois sur lesquels on grimpe dans le cirque traditionnel, et de poutres, donc, à l'horizontale. Et je reviendrai sur le rapport vertical-horizontal, parce qu'il y a vraiment quelque chose, un travail là-dessus. Donc, sur lequel on fait des sauts, des voltiges, et on réatterrit, évidemment, sur ses pieds. Donc, il y a ça. Et puis il y a aussi, ça commence d'ailleurs comme ça, il y a des parpaings qui sont apparemment extrêmement présents dans la vie quotidienne à Conakry, puisque tout est en train d'être bâti et tout est beaucoup bâti en béton et en parpaings, et parfois inachevé. Donc il y a ces parpaings qui servent à la fois aussi de support, et ça c'est intéressant aussi, et de choses lourdes à porter.
Mais
en fait, ce sont des agrès qu'on porte plus que des agrès sur lesquels on monte. Et ça, c'est très intéressant puisque toute la question, et c'est la question du genre dont parlait Zoé tout à l'heure, c'est que portent les femmes, à tout point de vue, y compris symboliquement, en Guinée et en Afrique de l'Ouest plus généralement. Donc, le premier numéro qui vraiment, je crois, potentiellement pour moi est le plus beau et celui que je retiendrai le plus, ça m'intéresse moins. Après, c'est plus virtuose, mais ça m'intéresse moins. Ce sont des femmes qui, donc elles sont six, mettent sur leur tête ce petit cerceau qui sert à porter souvent des charges très lourdes dans la tradition africaine. Et elles, au lieu de se mettre des sacs sur la tête, elles se mettent ces parpaings-là. Et elles commencent à chanter et à danser avec les parpaings sur la tête. Donc, c'est un exercice d'équilibre quand même très impressionnant. Et puis, elles s'épuisent, ce qui est l'exact inverse de la trajectoire du numéro de cirque où on va vers la complexité, on va vers la lourdeur sans que ça se voit. La question du cirque et la question même de la danse hein, en général, c'est on ne voit pas la virtuosité, il faut que ça ait l'air complètement fluide. Et là, elles s'épuisent, elles chantent, elles n'en peuvent plus, elles sont essoufflées, elles n'arrivent plus à chanter. Et les hommes entrent en scène et leur rajoutent des parpaings par-dessus le parpaing qu'elles portent déjà. Et elles s'effondrent. Et il y a beaucoup d'effondrements dans le spectacle. Ce sont les moments les plus beaux. Et ce sont des moments où on se rend compte que c'est pas un cirque de on monte vers le ciel, on veut absolument monter par des pyramides humaines, en montant à des mâts, etc., bien qu'il y en ait. C'est plutôt un cirque de l'horizontalité. C'est un cirque de le mât devient poutre, le corps s'aplatit de plus en plus, y compris dans l'effort, et le corps s'effondre.
Zoé, on a souvent défini le Circus Baobab comme un cirque social. Est-ce que c'est ça qu'on voit sur scène ?
Écoutez, moi je sais pas si j'ai envie de dire que c'est du cirque social, parce que je trouve que c'est plus que ça, vraiment bien plus que ça. C'est ce que dit Lucille, c'est-à-dire qu'il travaille, le premier spectacle, c'était un spectacle autour de l'eau, où il y avait déjà cette problématique-là, puisque c'était qui avait accès à l'eau. Et donc là, on est vraiment sur des choses, et c'est ça qui est beau, c'est que c'est un cirque qui travaille le point limite. Alors, dans ce sens-là, sans doute, c'est un cirque social, c'est un cirque social au propos social, mais il est social dans sa structure, parce que je rappelle que c'est des gens qui sont, c'est des jeunes, qui viennent dans un centre pour jeunes, qui sont formés aux techniques du cirque, on a beaucoup ça, il y a des gens qui font ça au Sénégal aussi. Donc c'est d'extraordinaires acrobates, mais on sent surtout qu'il y a une identité. On est dans ce sens, dans ce que dit Lucille, on travaille le point limite constamment, donc la question n'est pas de ne pas voir l'effort, c'est au contraire de pousser l'effort jusqu'au bout, c'est-à-dire que même quand la figure est réussie, on va la pousser jusqu'à ce qu'elle se casse, parce que c'est ça le propos de l'histoire, et puis parce que ça finit par incarner vraiment, c'est ça quand le cirque le fait bien, qu'est-ce que ça veut dire de se faire littéralement monter dessus, parce que c'est ça qui se passe, de porter quelqu'un, concrètement c'est ça que ça illustre. Je trouve surtout, ce qu'il y a de très très fort dans tout ça, c'est que chaque interprète, ça c'est un truc très très fort, dans le sens où je pense que d'une part la personnalité de ces gens qui ensuite se prennent à la fin en selfie sur scène et tout, ils sont ravis d'être là, ces gens-là arrivent avec qui ils sont, et ils sont vraiment là, c'est-à-dire qu'il y a une présence de chaque individualité et de cette identité-là qui perdure, et effectivement c'est un cirque social si on veut, mais pas nécessairement parce parce qu'il y a des moments qui touchent à la poésie, alors parfois des petits bouts. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas un spectacle à sujet. Le sujet colore.
L'excision, alors, elle est où?
Alors, l'excision, elle commence. On commence, on a un premier plan où ils sont presque dans des. Ils sont comme des statues, et finalement, ils finissent par tomber d'ailleurs. Il y a la première jeune fille qui est au tout premier plan, elle a une robe presque rouge et elle a les jambes écartées. L'excision, elle est évoquée par ces fameux sons, mais jamais frontalement. Le mot n'est jamais prononcé. Ce qui veut aussi dire que moi, j'y ai été avec des enfants qui ne savent pas ce qu'est l'excision. C'était pas grave. Ils ont pas du tout eu de problème à comprendre ce qui se jouait sur scène, puisque c'est plutôt. Et ensuite, l'excision, elle est à nouveau là, justement, quand on a quand même pas mal avancé dans le spectacle. Quand on a ces femmes qui vont faire des fameuses acrobaties de mât à mât. Et c'est tout le moment où on a des sons sur, justement, le bois sacré passer cette épreuve de la féminité, puisque c'est comme ça qu'est racontée l'excision. Et donc, elles font de la prouesse à ce moment-là. Et en même temps qu'elles sautent, elles libèrent presque imperceptiblement des espèces de paillettes rouges. Et donc, on sent qu'elles perdent leur sang. Et donc, au moment où elles réussissent, on sent qu'elles perdent quelque chose. Et elles vont tomber. Si on n'a pas l'idée de l'excision et si on est un petit enfant, c'est pas grave. On a quelque chose qui nous dit, performer, c'est perdre à un moment donné. Et ça, c'est très très puissant, quoi.
Peut-être un dernier mot, Lucille, sur la fin du spectacle. Vous vouliez nous raconter quelque chose?
Oui, parce que en fait, tout ce qu'on vient de dire sur la finesse et sur le fait que le spectacle n'assène rien, y compris son statut, en effet, de cirque social, de la particularité de là d'où viennent ces circassiens, est un peu bousillé, je dis le mot, par une intervention finale qui, je pense, va avoir lieu à toutes les représentations. Donc, je me permets de le dire, le spectacle va tourner dans toute la France. Je pense que vraiment, ça va être le cas à chaque fois. Quelqu'un monte sur scène. Déjà, il ne se présente pas. Je pense que c'est l'administrateur de la compagnie, mais je ne sais pas. Et il se trouve que c'est un homme, qu'il est blanc, et que c'est le premier de tout le spectacle qui prend la parole en français. Donc, qui s'adresse à nous en français, alors que les artistes sont toujours là.
Et le spectacle est fini.
Le spectacle est fini, ils ont salué. En plus, les saluts sont hyper impressionnants et très ritualisés. Donc, c'est vraiment bouclé, quoi. C'est fini. Mmh. Et donc là, il cite, comme au César, quoi, quasiment dans une cérémonie, tous les gens qui ont participé au spectacle, y compris les financiers. Et notamment privés. Alors, il y a l'Institut français de Conakry, bon, il y a l'AFD, mais il y a aussi des financiers privés, etc., des salles, tout ça. Et il raconte dans un second temps, donc après les financiers, après avoir cité les financiers, le parcours de ces jeunes qui sont souvent des gens qui ont été repérés dans la rue, qui étaient parfois des enfants abandonnés, etc. Ils sont sur place, ils sont là, ils n'ont pas la parole. C'est pas eux qui racontent leur parcours.
Les coulisses, quoi, les coulisses de la construction du spectacle.
Voilà, c'est vraiment très dommage parce que ça fait réfléchir au spectacle complètement autrement. Il faut faire un effort pour revenir à ce qu'on vient de dire, qui était vraiment une pure question esthétique, pour ne pas voir la chose comme presque quelque chose d'un peu humanitaire. C'est-à-dire que nous, en tant que spectateurs, on se retrouve devant presque une démarche humanitaire. Et c'est dommage.
Je suis assez d'accord. Ceci étant dit, ouais.
Bon. Dernier mot, parce que je dois conclure.
Non, ceci étant dit, effectivement, il le dit, financer un spectacle de cirque sur l'excision avec des gens noirs, je pense que c'était pas si facile, mais c'est vrai que ça vaut peut-être pas le coup de le faire
tout
le temps.
Seul, c'est voilà. La peine de le...
Allez, Yongo Yelis du Circus Baobab, c'est jusqu'au 2 mars à la Scala à Paris. Merci à toutes les deux. Chers critiques, vous pourrez retrouver toutes les références, les dates de tournée et bien sûr le podcast de cette émission sur la page des Minutes Culture sur le site franceculture.fr.